Voilà, nous avons invoqué l'Esprit Saint et nous avons dit « Je n'ai plus peur ». Et peut-être vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, mais une des phrases que Dieu dit le plus souvent dans la Bible, c'est « N'ayez pas peur ». Cette phrase qu'a reprise Jean-Paul II, « N'ayez pas peur ». N'ayez pas peur. C'est vrai que nous sommes habités par plein de peurs, conscientes ou inconscientes. Parfois, nous sommes en quelque sorte agis par la peur. Nous agissons à cause de la peur ou à cause de la culpabilité, mais le Seigneur veut nous libérer de la peur, de la culpabilité par sa miséricorde et par sa force. N'ayez pas peur. De l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 4. Après son baptême, Jésus fut emmené au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Il jeûna durant 40 jours et 40 nuits, après quoi il eut faim. Et s'approchant, le tentateur lui dit, « Si tu es fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, ce n'est pas de pain seul que l'homme vivra, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Voilà, donc Jésus vient d'être baptisé, non pas qu'il ait besoin d'un baptême comme nous, puisqu'il est le fils de Dieu, mais il est baptisé pour instituer le baptême chrétien. Il est baptisé par Jean-Baptiste, et au moment, dans saint Matthieu, où il est baptisé, l'Esprit-Saint descend sur lui sous la forme d'une colombe, et le Père lui rend témoignage. Et après ce baptême, le Seigneur est envoyé au désert par l'Esprit-Saint pour combattre le diable et pour vivre ce combat dans la faim, puisqu'il va rester 40 jours à jeûner, pour battre, pour vaincre le diable. Pourquoi le Seigneur Jésus part au désert vaincre le diable ? C'est qu'au début de l'humanité, le diable a vaincu l'homme, et donc l'humanité est soumise au pouvoir du mal, c'est pour ça qu'il y a tant de souffrances. Et donc le Seigneur est venu lui-même vaincre le diable, et c'est ce qu'il fait au désert, en jeûnant 40 jours. Ça peut aussi arriver dans nos expériences. Moi, j'ai eu la grâce de voir le ciel s'ouvrir au-dessus de moi quand j'avais 25 ans, et d'autres choses mystiques, eh bien, quand ces grâces se sont estompées, eh bien, le diable est venu ensuite me tenter, m'attaquer, pour essayer de m'enlever, de m'arracher à Dieu. Donc quand on reçoit des grâces, il y en a un qui n'est pas du tout content parce qu'on lui échappe, et donc eh bien, c'est le diable. Donc paradoxalement, quand on reçoit des grâces, parfois ensuite le diable vient nous attaquer parce qu'il n'est pas du tout heureux qu'on aille du côté de Dieu. Ce que veut le diable, c'est nous entraîner dans sa révolte, le diable et les autres anges qui se sont révoltés contre Dieu. À l'origine, ils étaient bons, ils se sont révoltés contre Dieu. Dieu n'a rien créé de mauvais. Et ce qu'ils veulent, c'est nous entraîner dans leur révolte, mais c'est une révolte, il y a un combat désespéré, puisqu'ils ont perdu. Donc ils veulent nous entraîner dans un combat où ils ont déjà perdu, tout en nous faisant croire qu'ils sont plus forts. Ça, c'est ça l'illusion du diable, c'est nous faire croire qu'il est plus fort alors qu'il a déjà perdu. Alors donc, le tentateur s'approche de Jésus, d'une certaine manière, il est un peu naïf, parce qu'il imagine qu'il va pouvoir vaincre le Fils de Dieu lui-même. Quand on est orgueilleux, souvent, on estime qu'on a des pouvoirs supérieurs à ce qu'on a réellement. Et donc, il lui dit, dans la première tentation que j'ai lue, « Si tu es Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Alors le diable, il ne faut pas quand même le sous-estimer, il est très intelligent. Il est même beaucoup plus intelligent que nous. C'est pour ça qu'il ne faut jamais le combattre tout seul. Il faut toujours le combattre avec notre ange, avec le Seigneur, avec le nom du Seigneur, avec la Vierge Marie. Cette parole, elle est très subtile et très puissante, d'une certaine manière, aussi très perverse. Si tu es fils de Dieu, tu es bien le fils de Dieu, je ne me trompe pas. Hein, tu es bien le fils de Dieu. Eh bien, si tu es fils de Dieu, tu peux tout faire. D'accord, c'est ce qu'il y a derrière ce qu'il dit. Donc, si tu peux tout faire, pourquoi tu es là à jeûner depuis 40 jours et à ne rien manger, alors que tu peux très bien transformer ces pierres en pain, même en caviar, en tout ce qu'on veut, en champagne. Pourquoi tu ne fais pas ça, puisque tu es Dieu ? Ça, c'est la grande tentation, une des grandes tentations. Cette tentation, elle nous attaque, elle nous atteint nous aussi. Vous voyez que beaucoup de nos contemporains, peut-être nous aussi, ne pensent qu'aux choses matérielles. Qu'est-ce qu'on va manger, de quoi on va se vêtir, les magasins, acheter, etc., dépenser tout ce qu'on veut pour ceux qui ont de l'argent, même pour ceux qui n'en ont pas parfois, on est dans un monde très matériel, comme s'il y avait que le matériel qui comptait. Bon, beaucoup n'ont même pas idée que la transcendance, que Dieu existe. Ils en restent qu'aux choses matérielles. Pour eux, le but de la vie, c'est de profiter au maximum de cette vie, parce qu'après, de toute façon, on va mourir. C'est un témoignage que j'ai entendu cet été, enfin, que j'ai entendu sur Internet cet été, d'une femme qui s'est convertie. Elle a été convertie grâce à son fiancé qu'elle a rencontré. Le fiancé lui-même cheminait vers Dieu et elle a cheminé avec lui. Cette femme, avant de rencontrer son fiancé, n'avait jamais entendu parler de Dieu. En tout cas, c'est ce qu'elle disait aussi. Et donc, elle disait, ben, avant, moi, comme je pensais qu'après la mort, il n'y avait plus rien, ben, je me suis dit, il faut en profiter un maximum. Il faut en profiter un maximum. Je ne comprenais pas pourquoi les gens, ils n'en profitaient pas un maximum. Parce qu'après, on est mort. Donc, je volais, je faisais tout ce qu'elle voulait. Voilà. Quand elle a compris que Dieu existait, ben là, elle a changé de vie. Elle a compris qu'elle allait vers le diable, qu'elle allait vers le mal, qu'elle faisait le mal et que ça aurait des conséquences sur sa vie après la mort. Donc là, elle a complètement changé d'attitude. Mais si on pense qu'il n'y a pas de vie après la mort, ben, il faut absolument s'éclater, parce que de toute façon, après, c'est terminé. Il faut essayer de maximiser notre plaisir sur terre. Et c'est ce que le diable essaie de nous faire croire. Maximise ton plaisir sur terre. Parfois, on se dit, certains disent, mais je suis arrivé à 50 ans, j'ai toujours été malheureux. Ça arrive, il y en a qui disent ça, j'ai toujours été malheureux. Bon, il y a quand même des moments de bonheur. Mais le plus important, ce n'est pas que tu aies été heureux pendant tes 50 années de vie, parce que ça, c'est passé, c'est terminé. Le plus important, c'est qu'après ta mort, tu aies la vie éternelle, éternellement. C'est ça qui va faire la différence. Ce n'est pas que tu aies vécu 50 ans dans le malheur ou le bonheur. Même si c'est dur de vivre 50 ans dans le malheur, et Dieu veut pour nous le bonheur. Mais le plus important, ce n'est pas ça. C'est ce qui va se passer après ta mort, comme je disais tout à l'heure. Le diable provoque le Fils de Dieu pour qu'il abandonne sa filiation. Vous entendez aussi aujourd'hui parler de filiation, comme par hasard. Voilà, il essaie d'attaquer le Fils de Dieu pour qu'il abandonne sa filiation. Il attaque sur le point de sa filiation. Si tu es Fils de Dieu, eh bien moi, je vais essayer de faire que tu ne sois plus Fils de Dieu. En faisant que tu désobéisses à ton Père. Si tu désobéis à ton Père, tu ne seras plus Fils de Dieu, puisque le Fils de Dieu obéit toujours à son Père. Donc, fais que ces pierres deviennent du pain. Mange, profites-en. Puisque tu as du pouvoir, ben profite de ton pouvoir. Eh bien non. Le Seigneur Jésus a tout pouvoir, il est tout puissant, mais comme dit saint Paul, il est venu nous enrichir de sa pauvreté. Il nous a montré le chemin de la pauvreté. Le chemin du salut, ce n'est pas le pouvoir. Parce que le pouvoir engendre des combats de pouvoir. Quand on a des pouvoirs, il y a des combats de pouvoir, inévitablement. Eh bien, le Seigneur Jésus, il est venu nous montrer le chemin de la pauvreté pour aller vers le ciel, pas le chemin du pouvoir. Mais il a quand même un pouvoir, c'est celui de répondre au diable, et il lui répond à travers une parole de la Bible qui est dans le Deutéronome, le livre du Deutéronome, chapitre 8, verset 3. « Ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ces paroles, elles ont aidé le peuple hébreu à vivre leurs 40 ans au désert et à ne pas succomber aux tentations, à ne pas mourir dans le désert. Eh bien, c'est cette même parole que Jésus reprend pour lutter contre le diable, la parole de Dieu, parce que c'est la seule parole qui fasse du mal au diable, c'est la parole de Dieu. « Ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Autrement dit, pour Jésus, sa première nourriture, c'est la parole de son Père. Il dira aussi « c'est la volonté de son Père » dans saint Jean. Sa première nourriture, c'est plus important que toute nourriture terrestre. Il le sait parce qu'il sait que cette parole de son Père, c'est la vie. C'est la vie éternelle que le Père lui donne sans cesse puisqu'il est le Fils éternel. Mais c'est aussi la vie pour nous. Donc frères et sœurs, est-ce que la parole de Dieu pour vous est une nourriture? Est-ce qu'elle est essentielle? Est-ce que si je vous rencontre un jour sur le trottoir, parfois ça m'arrive de rencontrer des gens dans Paris qui me reconnaissent, Père Thierry, très bien, on discute 3 secondes. Si je vous demande, quelle est la parole qui te fait vivre en ce moment? Est-ce que vous serez capable de dire la parole qui vous fait vivre en ce moment? Attendez, je vais réfléchir très fort. Bon, laissez-moi 3 minutes pour réfléchir, je vous laisse 3 minutes. Ben, je vous pose cette question. Quelle est la parole qui vous fait vivre maintenant, actuellement? Bon, réfléchissez dans votre tête. Peut-être qu'il n'y en a pas. Ben, demandez au Seigneur une parole qui vous fasse vivre, qui soit votre vie. D'accord? Donc, ce n'est pas de pain seul. Bien sûr, on a besoin de pain pour exister, mais la parole est plus importante que le pain. C'est pour ça que parfois, c'est bien de jeûner pour montrer à Dieu, « Seigneur, ta parole, pour moi, elle est plus importante que le pain. » C'est ça le sens du jeûne. Ta parole, elle est plus importante pour moi que le pain. Maintenant, je vais vous donner un témoignage, celui de Huguette. Alors, elle m'a écrit une longue lettre Je résumerai certaines parties parce qu'elle est assez longue. Bonjour, je voudrais vous témoigner de la guérison de mon fils. Tout a commencé en octobre 2017, juste après son entrée en BTS. Il ne se sentait pas bien. Il est venu m'en parler et j'ai tenté de l'encourager à continuer, mais rien à faire. Il allait de plus en plus mal. J'ai donc décidé de consulter un médecin pour essayer de comprendre ce qui n'allait pas. Le médecin a conclu à un manque de confiance, rien de grave a-t-il dit, et il nous a conseillé de prendre un rendez-vous avec un sophrologue, ce que nous avons fait, mais après quelques séances, mon fils n'allait toujours pas mieux. J'ai donc pris la décision avec son accord d'arrêter les cours et de lui laisser le temps de faire une pause afin de reprendre les cours la rentrée prochaine. Nous sommes partis en vacances et à notre retour, il a recommencé à aller mal au point de ne plus dormir, déconnectant totalement de la réalité. Et là, nous avons décidé de l'emmener consulter un psychologue en urgence. Une psychologue. Celle-ci nous a demandé de le conduire tout de suite aux urgences de l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, il a été vu par un psychiatre qui nous a conseillé de le laisser en hospitalisation. Puis il est ressorti avec un traitement pour la bipolarité, mais en fait, les médecins n'ont jamais pu poser réellement un diagnostic sur ce qu'il avait. Le temps passant, sa vie était rythmée par la prise de médicaments et de séances chez le psychiatre, toujours avec des crises. Notre fils était en souffrance et nous aussi impuissants, sans rien pouvoir faire. Je priais, je demandais l'aide à Jésus pour qu'il guérisse mon fils. Un jour, un collègue m'a parlé de la prière des malades, où elle se rendait le jeudi à l'église Saint-Nicolas-des-Champs et des guérisons qui s'opéraient pour certaines personnes. J'avoue que cela m'a surpris, je suis restée un peu méfiante. Je ne suis donc pas décidée à y aller, mais finalement je m'y suis décidée. Et en sortant de cette prière, j'étais comme euphorique, assez bizarre et tellement heureuse d'avoir rencontré Jésus. Donc déjà, Huguette, elle avait rencontré Jésus pendant la prière, ça c'est un bon point. J'ai hésité avant d'amener mon fils à la prière, je ne savais pas comment il allait réagir. J'avais peur de ne pas trouver de place assise, sachant qu'il était sous médicaments. Tout cela m'inquiétait un peu. Puis, je me suis décidé, et malheureusement, ce jour-là, il n'y avait pas de prière des malades. Et oui, c'est bien d'aller voir s'il y a la prière des malades sur le site internet, s'il y a bien la prière des malades ce jeudi-là. Nous sommes restés, avons prié un peu, puis nous sommes partis. Quelques jours après, j'ai eu quand même le sentiment que Jésus nous guidait. Plus tard, j'ai à nouveau décidé d'aller avec mon fils à l'église Saint-Nicolas-des-Champs, à la prière des malades, après que nous ayons vu la psychiatre de la clinique. Mon fils a prié, et j'ai prié aussi, demandant à Jésus, donc là il y a eu vraiment la prière des malades, mon fils a prié, j'ai prié aussi, demandant à Jésus de permettre à mon fils d'être hospitalisé à cette clinique, dont elle a parlé avant, je n'ai pas lu, et opéré à travers ce médecin pour que mon fils guérisse. Quelque temps après, il est allé à cette clinique, et en fait, il n'y est resté qu'une quinzaine de jours, parce que le médecin qui l'a prise en charge a été agréablement surprise de constater l'évolution rapide de sa guérison. Il était entré à la clinique pour un traitement adapté, et voilà qu'il ressort complètement guéri, sans aucun traitement. Aujourd'hui, il va bien, et donc il fait la rentrée. Enfin, quand elle m'a écrit, il envisageait la rentrée, donc il l'a déjà fait, puisque la rentrée est passée. Mais je sais une chose, c'est que Dieu a guéri mon enfant. Je me suis promis de lui rendre ce témoignage, ce que je fais en ce moment même, et d'évangéliser pour lui. Merci à vous tous pour vos prières et à l'attention que vous apporterez à mon courrier. Donc c'est Huguette. Merci Huguette pour votre témoignage. Maintenant, je vais donner d'autres témoignages de guérison plus rapidement que celui que je viens de dire. Donc suite à une parole de connaissance affirmant qu'une Autrichienne recevait une guérison dans son cœur pendant la prière, Christina, qui est autrichienne, a reçu une guérison affective. Marie-Ange, le médecin lui avait dit après examen qu'elle n'était pas fertile, ne pourrait pas avoir d'enfant. Elle est venue à la prière des malades, elle a aussi reçu le sacrement des malades à Lourdes. Suite à cela, il y a d'autres examens qui ont été faits. Et ces examens ont montré que finalement, ses trompes utérines, qui étaient censées être malades, étaient finalement normales. Donc elle a été guérie. Clotilde, elle a senti son corps s'enflammer lors d'un chant pendant le passage du Saint-Sacrement. Une parole de connaissance a effectivement dit qu'une personne sentait son corps s'enflammer pendant le chant. Florence a témoigné que depuis qu'elle vient à la prière des malades de Saint-Nicolas-des-Champs, elle se sent transformée par la grâce. Ben ça, il y a peut-être pas mal de gens qui, même sans avoir eu des guérisons, sentent que la grâce fait son effet progressivement à force de venir ici. Frédéric, il y a plus de 6 mois, il a été guéri au cours de la prière des malades de problèmes de vertige qu'il avait depuis plusieurs mois et dont il n'arrivait pas à se débarrasser. Zéphirin, qui vient depuis 2016, a été totalement guéri de sa prostate à la prière des malades et il rend grâce à Dieu. Voilà, merci Seigneur pour toutes ces guérisons que tu opères dans cette prière. Nous allons maintenant t'accueillir toi-même dans le Saint-Sacrement. Nous savons que tu peux tout. Nous avons confiance en toi.